prier. Notre Dieu, nous te remercions pour cet amour que tu immense que tu as manifesté envers nous et qui fait que nous sommes à trois, non pour un jour, comme nous l'avons chanté, mais pour l'éternité. Merci parce que cet amour pour nous a été manifesté en la personne de Jésus-Christ que tu as envoyé et qui a payé pour nous, qui a pris notre place, qui est mort et ressuscité pour nous. Nous te remercions, nous te louons pour cela et nous te louons parce que, oui, ta parole nous le dit, nous sommes morts avec Christ, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Seigneur, aide-nous donc à chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donne-nous de nous y affectionner et donne-nous de faire mourir dans nos membres, dans notre corps, ce qui ne vient pas de toi, ce qui est péché. Merci encore pour cette puissance que tu nous donnes contre le péché. Ta parole dit que le péché n'a plus de pouvoir dans notre corps mortel et nous ne sommes pas obligés de lui obéir. Et nous te prions que tu nous donnes vraiment de nous attacher à toi. Merci pour ces instants, pour ceux qui sont là, ceux qui sont encore en chemin. Te prions de les garder, de les protéger. Et Seigneur, que ton esprit nous dirige dans cette étude ce soir, qu'il puisse nous éclairer et susciter en nous ce désir d'obéissance. Te prions cela en ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Je vous invite à ouvrir encore votre Bible dans Colossiens, chapitre 3. On est toujours dans cette petite série d'études. Colossiens, chapitre 3. Très pratique, on essaye d'être très pratique avec cette petite série. On prend, pas tout à fait, mais presque une vérité par une vérité, une exhortation par une exhortation. Mais c'est ce que l'apôtre fait ici parce qu'il nous donne la grande ligne de notre association avec Jésus-Christ au chapitre 3. Et puis, il nous dit que donc nous devons avoir une certaine vie qui est adéquate à la position que l'on a en Jésus-Christ. Donc on va lire les versets 1, chapitre 3, verset 1, jusqu'au verset 10. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et puis l'apôtre Paul aurait pu s'arrêter là, chercher les choses d'en haut. On pourrait le dire, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, hein? Comment est-ce qu'on doit chercher les choses d'en haut? Comment est-ce qu'on doit s'attacher aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre? Ça reste quelque chose de très vague s'il n'y a pas quelques précisions. Et l'apôtre Paul, le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, nous donne les précisions ici, à partir du verset 5. Il dit, faites donc, en conséquence, qu'est-ce que ça veut dire? Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, c'est-à-dire la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc, il y a un temps où on vivait dans ces choses, hein, et on marchait d'une certaine manière. Et puis verset 8, il dit, mais maintenant, c'est-à-dire il y a un autrefois dans la vie chrétienne, et puis il y a un maintenant, renoncez à toutes ces choses, particulièrement à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans une connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc on avait vu un certain nombre de choses. La dernière fois, on était resté sur la colère. Donc on avait dit qu'il y a, avant, il y avait un groupe de péchés qui était quelque chose de personnel un peu, hein, de l'idolâtrie, la cupidité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Et puis il y a des péchés qui sont un peu plus relationnels. Et ici, la colère, c'est toujours contre quelqu'un que cela se manifeste. L'animosité, ici, il dit. Et ce soir, on voudrait regarder, s'arrêter un peu sur la calomnie. Il dit aussi au verset 8, renoncer à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Donc tout ça, ça vient avec la colère, on pourrait dire. À la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Et verset 9, ne mentez pas les uns aux autres. Donc là, on est quelque part dans ce qu'on pourrait appeler les métiers de bouche. Les métiers de bouche, les péchés de bouche. Il y a les métiers de bouche, hein, vous connaissez, on dit la restauration, c'est les métiers de bouche. Hein. Mais nous avons là les péchés de bouche, hein, on pourrait dire. Et donc, c'est une chose que l'on fait avec la langue. Donc, il dit ici, la calomnie et les paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. L'apôtre Paul dit à peu près la même chose dans Éphésiens. Regardez Éphésiens, chapitre 4, si vous avez Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et au verset Éphésiens 4 et au verset 25, il dit c'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle, voyez la parole, selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Et puis un peu plus loin, verset 29, il dit « Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Et puis au verset 31, il dit « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, voilà. » Et le même mot, et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Donc ce soir, on veut considérer la question de la calomnie. Le titre qu'on pourrait donner ici, c'est « Attention à nos paroles ». Attention à nos paroles. C'est ce que ce passage, ces passages nous invitent à faire ici. Alors, nos paroles... c'est un domaine dans lequel nous devons faire attention. Il y a de nombreuses, dans la Bible, de très nombreuses exhortations concernant les paroles que nous prononçons. Tout à l'heure, dans la voiture, on regardait avec ma femme, on dit, on va regarder combien de paroles, en moyenne, les gens prononcent par jour. Hein? Je ne sais pas si vous avez une idée, hein? Peut-être vous pensez que vous prononcez 100 paroles. C'est peu, 100 paroles, hein? C'est beaucoup. Alors ici, on a vu qu'il y avait, il y avait une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes, c'est un petit peu plus que les hommes, mais ça, on s'en doutait. Non, c'est pas. Mais c'est très peu. C'est à peu près la même chose. 15 000, à peu près pour les hommes. 15 000 et quelques, hein, presque 16 000, et puis les femmes un petit peu plus que 16 000. Mais à peu près, disons globalement, à peu près 16 000 paroles par jour en moyenne. Donc il y a des gens qui comptent ça. Hein. C'est pas comment ils font. Mais c'est une statistique, c'est une moyenne. Donc ça veut dire que c'est quand même pas mal. Hein? Et la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc on voit ici que c'est quelque chose qui est important quand nous considérons les paroles. Alors, je disais qu'il y a de nombreuses exhortations concernant la parole. Est-ce que vous en avez quelques-unes dans l'Ancien Testament et quelques-unes dans le Nouveau Testament ? À vous de travailler. Qu'est-ce que l'Ancien Testament dit de la parole ? Est-ce que vous avez quelques... La parole ou la langue, hein, c'est pareil. Hein, on pourrait mettre. L'Ancien Testament. Proverbe 18-21 qui dit... Voilà, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que vous en avez d'autres ? Dans l'Ancien Testament. Qui vous viennent à l'esprit ? Non, pas beaucoup. Voilà, celui qui parle légèrement blesse tel qui parle légèrement, c'est Proverbe 12, 18. blesse comme un glaive. Hein. Puis il y a beaucoup dans les proverbes, hein, mais dans les psaumes aussi on trouve, hein, psaume 39, 1 et 2, je vous lis, il dit « Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Hein. » Donc, vous voyez, hein, mettre un frein à sa bouche, voilà, donc c'est un peu quelque chose qui parle de la parole, mais dans les 10 commandements, par exemple. Qu'est-ce qui a trait à la parole dans les 10 commandements? Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. C'est quelque chose qui a trait à la langue, à la parole, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est une exhortation que l'on trouve dans la parole. Dans le Nouveau Testament, est-ce que vous en avez? Oui, l'épître de Jacques, hein, tout le chapitre 3 de Jacques parle de la langue. Hein, et il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. On va revenir à cela tout à l'heure. Donc, Jacques, chapitre 3. Mais est-ce qu'il y a d'autres? Il y a tout Jacques. Hein, il n'y a pas que le chapitre 3 dans Jacques. Hein, mais beaucoup de passages dans Jacques qui parlent de la langue. Mais est-ce que vous en avez d'autres? Oui. Voilà. Encore, il est question de nos paroles. Voilà, soit assaisonnées de grâce et de sel. Oui. Voilà, qu'il ne sorte de votre bouche, on l'a lu tout à l'heure, hein, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Dans les évangiles, il est dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. D'accord ? Il y a beaucoup de choses. Hein. Si on revient à l'Ancien Testament, Ecclésiaste dit que tes paroles soient peu nombreuses. Hein, on peut trouver, et ça c'est qu'un petit échantillon. Hein. Si vous prenez une concordance, vous cherchez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de textes qui parlent de la parole et du rapport que nous entretenons, hein, parce que c'est nous qui parlons avec la parole. Donc on revient à notre texte ici un petit peu, mais juste avant, est-ce que vous, là on a essayé de citer des passages qui parlent de la parole, mais est-ce que vous avez en tête des situations de personnes où la parole a été un problème, où la parole a été le péché, par exemple? Oui, voilà, très bien. Marie et Aaron, la Bible dit qu'ils ont fait quoi? Ils ont parlé contre Moïse. Et même Dieu, il dit, hein, Dieu dit, pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Donc le péché qui leur est reproché, c'est qu'ils ont exprimé avec leurs lèvres quelque chose contre quelqu'un. D'accord? C'est une parole. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a un autre? Avec, qu'est-ce qui parle? Je ne vois pas. Les amis de Job, oui, voilà, hein, ils ont parlé... un peu n'importe comment, hein? Ananias et Saphira, c'est carrément le mensonge, hein? Le mensonge, hein? D'accord? On va revenir après. Le mensonge, c'est une catégorie encore. On va revenir peut-être la prochaine fois, oui. Oui. Oui, voilà. Donc il a menti, quoi. Il a menti et puis il a mis en doute la parole de Dieu. Très bien. Moïse, hein? Lorsque Moïse a frappé le rocher, c'est ce qu'il a fait, je crois, au lieu de parler. C'est bien sûr sans ça que ça va? J'ai toujours un doute à chaque fois. Il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Dieu l'a puni pour cela. Hein? Parce que Dieu lui a dit, tu ne m'as pas sanctifié devant le peuple. Mais lorsque le psaume 106... rapporte les événements, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, hein. Je ne sais plus, psaume 106, verset 33, quelqu'un veut lire psaume 106, verset 33, la Bible dit, ou je vais le résumer, ce n'est pas grave, hein. La Bible dit que le peuple a aigri l'esprit de Moïse, ils aigrirent son esprit, et qu'est-ce que Moïse a fait? Et il s'exprima légèrement des lèvres. Hein. En fait, le texte nous rappelle ici que ce que Moïse a fait, ça a été de s'exprimer. Quand il a dit, par exemple, je suppose, hein, quand il a dit « Est-ce de ce rocher que je ferai sortir de l'eau ?» Il a dit quelque chose comme ça. Et la Bible dit qu'il s'est exprimé légèrement des lèvres. Donc c'est un péché de bouche, on pourrait dire, hein, quelque part. Donc on revient maintenant à notre texte. Donc on voit combien, c'était un petit survol rapide, pour voir comment c'est important, c'est un thème important dans l'Écriture, le fait, la parole, hein, et le fait qu'on puisse pécher par nos paroles. Mais notre texte là, l'exhortation c'est quoi? Il dit, je relis dans Colossiens chapitre 3 verset 8, ce qu'il faut faire mourir c'est quoi ici? Il dit, mais renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Donc la calomnie qui sort de la bouche et les paroles déshonnêtes qui sortent de la bouche. Qu'est-ce que, donc, on va se cantonner ce soir simplement au fait de renoncer à la calomnie. Les paroles équivoques, on verra après, mais renoncer à la calomnie. Qu'est-ce que la calomnie? C'est quoi la calomnie? C'est? Oui, faux témoignage. Comment vous comprenez ça, ce mot? Médisance, c'est provocation de dispute, ça c'est le résultat, peut-être. Mais la calomnie en elle-même, mais c'est vrai que ça conduit à ça, tu as raison. Ouais. Alors moi je prends le mot qui est traduit par calomnie, vous allez voir, c'est le mot, dans son sens original, c'est blasphémia. Dans ce mot-là hein, que l'apôtre Paul utilise ici. Hein. Parfois il y a un autre mot aussi qui peut être utilisé, qui est traduit par calomnie, et ça rappelle tout de suite le mot blasphème, hein, ici, ça rappelle tout. Donc c'est un discours, le dictionnaire biblique dit que c'est un discours injurieux, un discours blasphématoire. Et si je prends la définition du dictionnaire, Larousse par exemple en français, il dit que c'est le fait de dénaturer sciemment quelque chose par de fausses interprétations, le fait de dénigrer, le fait de diffamer, c'est un peu le sens que cela a. Et donc, la question que l'on se pose, est-ce qu'une telle chose est possible de la part des chrétiens? Ben oui, sinon on n'aurait pas l'exhortation, hein? On n'aurait pas l'exhortation. Alors, pour vous faire sentir quand même que c'est bien chez les chrétiens, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens parce qu'il dit, vous êtes quoi? Mort, vous êtes ressuscité avec Christ, c'est pas tout le monde, ce sont les croyants, les chrétiens, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, et c'est à cela qu'il dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Donc ces choses sont là encore, et il faut renoncer à ces choses, il faut les faire mourir. Donc bien sûr, ça concerne les chrétiens. Et l'apôtre Jacques, on va revenir sur ce texte de Jacques, dit la même chose, calomnier, c'est parler mal de quelqu'un, on est d'accord, hein? C'est dire du mal de quelqu'un. Et donc, l'apôtre Jacques dit, « Ne parlez point mal les uns des autres frères. » Frères, donc ce sont des chrétiens. Il dit, « Ne parlez point mal les uns des autres. » Dans Jacques 4, verset 11. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de quelqu'un. Il y a une différence entre parler de quelqu'un et parler mal de quelqu'un. D'accord, il ne dit pas qu'il ne faut jamais évaluer les agissements de quelqu'un. Quelqu'un peut agir mal, vous le dites, il vous dit, hey, écoute, toi, tu ne dois pas me juger. Hein? Ce n'est pas ce que ça veut dire. Hein? D'accord, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discriminer entre les personnes, porter un jugement discriminatoire. Hein? Entre les personnes. Ça ne veut pas dire qu'on accuse faussement quelqu'un, mais on peut faire un discernement entre les personnes pour quelque chose. Et l'Écriture, sinon, dans une église, si ça ne se passe pas, il ne peut pas avoir de discipline, par exemple, ecclésiale. L'apôtre Paul dit, par exemple, Jésus lui-même, il dit, hein, il dit ceci dans Jean 4, 24, il dit, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais, quoi ? Jugez selon la justice. » Donc, il y a un sens dans lequel on peut juger des choses. Hein. Et puis l'apôtre Paul, quand il parle de la discipline de l'Église dans 1 Corinthiens, chapitre 5, il dit, pour moi, chapitre 5, verset 3, par exemple, et puis aussi au verset 12, il dit « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. » Et donc, il a déjà tiré un enseignement, fait une discrimination, il a porté un jugement sur l'acte, il sait qu'il est mauvais, il faut que la discipline s'exerce, etc. Et puis, il ajoute plus loin, il dit « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ?» Donc, il dit que une église normalement constituée doit exercer une discipline, un chrétien normalement constitué doit pouvoir être capable de porter un jugement saint sur les choses. Mais c'est une chose que de porter un jugement saint, c'en est une autre que de parler mal des autres. Et c'est ça qui est notre exhortation ici, c'est de ne pas parler mal des autres. Alors, si je reprends le passage de Jacques, peut-être voir à partir de ce passage plus d'explications, parce que l'apôtre Paul n'étaye pas ici, mais on peut regarder dans d'autres passages comment c'est étayé. Ce que Jacques dit ici, quand il dit dans Jacques 4, verset 11, quand il dit « Ne parlez point mal les uns des autres, frères », ce qu'il met en évidence, c'est l'attitude destructive qui consiste à parler de quelqu'un dans l'intention évidente de nuire à la personne. On peut parler de quelqu'un dans l'intention de nuire à cette personne, de la diffamer, de la rabaisser dans l'estime des autres. Et c'est ce péché-là que l'apôtre Paul condamne ici dans notre passage de Colossiens chapitre 3 et verset 8. Et nous pouvons mesurer comment ce péché est répandu dans le monde. Parfois, vous pouvez être même, bien malgré vous, témoin d'une conversation dans le train ou ailleurs de personnes qui parlent d'autres. Et parfois, on appelle ça casser du sucre sur le dos des gens. Je ne sais pas pourquoi cette expression est comme ça, mais en tout cas, mais c'est une manière de dire du mal des autres. Et ça arrive malheureusement souvent dans le monde et aussi ça arrive dans l'Église et parfois aussi entre les chrétiens. Alors, on peut parler mal des autres en inventant un mensonge pour faire du tort à quelqu'un. Mais on peut parler mal des autres en utilisant la vérité sur quelqu'un aussi. On peut utiliser quelque chose de vrai dans la vie de la personne, mais la dire d'une manière telle que on cherche à nuire à la personne avec cette vérité. Voyez, c'est pas forcément la calomnie n'est pas forcément, enfin le fait de calomnier n'est pas forcément le fait d'utiliser un mensonge, mais ça peut être créer un mensonge pour nuire à quelqu'un, mais ça peut être aussi parfois utiliser une vérité au sujet de la personne pour lui causer du tort. Donc on parle mal des autres, par exemple, quand on leur attribue injustement une fausse motivation à leurs actions. On peut raconter l'action de quelqu'un qui est vraie, mais on attribue à cette personne une mauvaise intention dans l'action qu'elle a accomplie. D'accord ? Et là, on calomnie contre cette personne. Rappelez-vous de David, vous rappelez de David, lorsqu'il y avait la bataille avec Goliath, et puis que ses frères étaient sur le champ de bataille, et puis David, son père, l'envoie pour voir comment vont ses frères. Et quand il arrive, Eliab, son grand frère, l'interpelle, et puis lui dit ceci dans 1 Samuel 17, 28. Il dit, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu ici ? Et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert ? Il dit, je connais ton orgueil, la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Son père l'a envoyé pour voir. Mais il arrive et puis il dit, ouais, je connais ce qu'il y a dans ton cœur. T'es un petit filou, toi. C'est devenu là, c'est vraiment pour voir ce qui se passe, etc. Voilà, c'est ça qui te motive. Alors, c'est vrai qu'il est venu sur le champ de bataille. C'est vrai qu'il a posé des questions aux gens pour savoir ce qui se passait. Mais ce n'était pas de l'orgueil dans son cœur. D'ailleurs, Dieu va l'utiliser plus tard pour délivrer son peuple. Ce n'était pas non plus de la malice dans son cœur. Mais on voit ici qu'Eliab, il a utilisé ça pour prêter une mauvaise intention à David. Et ça nous arrive aussi parfois. Quelqu'un nous dit pas bonjour, on dit, c'est pourquoi il m'a pas dit bonjour, hein. Ou quelqu'un nous dit quelque chose, on dit, ouais, c'est, des fois, il te sourit comme ça, mais par derrière, faut pas croire, hein. J'ai entendu des gens dire cela, hein. Donc, le dimanche, il te sourit, mais, dans le fond, on sait bien que, hein, le cœur n'y est pas. Qu'est-ce qu'on en sait? Hein? Donc, ça s'appelle calomnier, puisqu'on dit ça à quelqu'un d'autre. Donc, on transmet une mauvaise image de cette personne, d'accord, à une tierce personne. Et ça s'appelle ici calomnier. Alors, qu'est-ce que l'Écriture dit, si on va un petit peu plus loin, de la calomnie? Alors, si vous regardez Proverbe 16, verset 28, quelqu'un peut lire ça pour nous, rapidement, Proverbe 16, verset 28, si vous l'avez. Comme ça, je vous fais participer, hein. Soit dans vos Bibles papier, ce qui est bien, soit dans vos Bibles électroniques, ce qui est moins bien. Oui, c'est pas grave. Critiqueur ou rapporteur, vous avez peut-être rapporteur, hein. Mais celui qui, voilà, qui rapporte, qui fait des faits, il la calomnie, hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il divise les amis. Donc, on peut voir ici que la calomnie, c'est quoi? C'est ce que disait Ebenezer tout à l'heure, hein. Ça conduit à quoi? À la division. La calomnie conduit quasi inévitablement à la division. Quand on commence à dire des choses contre quelqu'un, on commence à agglomérer les uns d'un côté, les autres de l'autre. On est un agent de division. Il faut le savoir, hein, ça. Et donc, si vous distillez la calomnie, vous êtes agent de division dans le corps de Christ, hein. Et donc, il ne suffit pas que quelque chose soit vrai pour le dire. Si on le dit dans l'intention de nuire, on est sur le point de causer des divisions. Ou si on le dit seulement pour le dire, alors que ce n'était pas obligé de le dire, on est sur le point aussi de causer des divisions. Donc, il faut savoir cela, la calomnie, on le voit donc d'après ce verset, ouvre la voie ou conduit, et où c'est la voie de la division ici. 2 Timothée 3, verset 1 à 5, quelqu'un peut lire ça? 2 Timothée 3, verset 1. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Ils seront, donc on a lu le mot ici, calomniateur. Hein. Ça c'est, donc on peut dire ici que la calomnie est une marque d'impiété. Hein. Parce que l'apôtre Paul parle des impies des temps derniers. Il dit, voilà comment ces gens-là sont. Il dit, les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, calomniateurs. Hein. Et c'est quelque chose que l'on... C'est assez naturel, ok, pour nous, comme on parle beaucoup, d'être dans la calomnie. Et puis, si on reprend le passage de Jacques, chapitre 4, verset 11, on peut voir, il dit, hein, que celui qui parle mal d'un frère, je le lis moi, Jacques 4, verset 11, celui qui parle mal d'un frère, ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que la calomnie est un jugement contre la loi de Dieu, on pourrait dire ça, et une tentative d'usurpation, ça se dit ça, usurpation, c'est pas, hein, d'usurper en tout cas la position de Dieu. Quand on calomnie, alors on va essayer de le démontrer ça, quand on calomnie, on juge la loi, on se place en juge de la loi, c'est ce que le texte dit ici, et en usurpateur de la position qui appartient seule à Dieu. Alors Jacques fournit une justification, il dit « Ne parlez point mal, frères, les uns des autres, car celui qui parle mal d'un frère, et il... » dit que celui qui parle mal d'un frère, il le juge aussi. Et qu'il juge son frère, mais qu'il juge négativement. Il juge avec un esprit de critique. Il n'est pas en train de faire un discernement, il est en train d'apporter une critique. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot juger ici. Il dit celui qui parle mal d'un frère, qui juge le frère, parle mal de la loi et juge la loi. Donc il décrit la calomnie dans son rapport avec la loi de Dieu ici. Jacques, donc, il pense peut-être à la loi qu'il vient de décrire en Jacques 2, verset 8, quand il dit, Jacques 2, 8, quelqu'un, je vais le lire, hein, Jacques 2, chapitre 8, il dit ça, il dit, Jacques 2, 8, quelle loi il parle, donc quelle loi il parle ici? Il dit, si vous accomplissez la loi, comment elle est cette loi? Royale, selon l'Écriture. Et quelle est cette loi royale? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Et donc, probablement, quand il dit celui qui parle mal d'un frère juge la loi, il pense à cette loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En Matthieu 20, 40, Jésus avait dit que de ces deux commandements dépendent, tu aimeras ton prochain et tu aimeras Dieu comme toi-même, de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Donc, c'est peut-être ce dont parle Jacques ici. Donc, il dit, celui qui calomnie son frère, donc il ne l'aime pas, puisqu'il le calomnie, et il pêche contre la loi, cette loi-là qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, le message qu'il renvoie, quand il calomnie, à son entourage, c'est un mauvais message concernant la loi de Dieu. Il parle contre la loi, quand il calomnie. Quand il calomnie, il renvoie l'image que, en tant que chrétien, il peut faire cela, donc il va à l'encontre de la loi de Dieu. Il blasphème, parce que l'on m'a dit que le mot calomnier, ça a le sens de blasphème. Il blasphème contre la loi de Dieu. Celui qui calomnie son frère, il est un blasphémateur de la loi de Dieu. On parlait de ça avec un jeune frère il n'y a pas très longtemps. Lorsque David a commis l'adultère avec Bathsheba, vous vous rappelez de ça. Et Dieu envoie le prophète Nathan pour confondre David. Nathan vient voir David, il raconte à David une histoire, et puis David reconnaît que c'est lui, il lui suit cet homme-là, et David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Et puis Nathan dit, Dieu pardonne ton péché. Mais il ajoute, puisque tu as méprisé la parole de l'Éternel, et que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Et c'est intéressant de considérer ça, c'est-à-dire que le fait que David a commis l'adultère, c'est lui-même, il méprise, il blasphème la loi de Dieu, mais il agit de telle sorte, Dieu dit que même les ennemis de Dieu regardent cela et pour eux, ils se sentent libres pour blasphémer la loi. David les a entraînés à blasphémer la loi de l'Éternel. Et donc, c'est un peu la même image ici. Quand on parle mal, on devient juge de la loi, on donne celui qui parle mal contre son frère, il parle mal de la loi de Dieu. Il ne donne pas une bonne image de la loi de Dieu. C'est comme s'il la dénigre, il la méprise, donc il en parle mal dans son comportement. Il est chrétien, il est censé montrer au monde la beauté de la loi de Dieu. Il ne le ferait pas cela parce qu'il veut se soumettre à la loi de Dieu. Mais comme il méprise son frère, il pêche contre le commandement d'amour et donc, quelque part, il parle mal de la loi de Dieu. Mais Jacques va plus loin, il dit, il juge la loi. Celui qui juge se place d'office au-dessus des choses. Il estime qu'il fait mieux et qu'il est meilleur. Ainsi, celui qui juge, eh bien, c'est le signe évident qu'il a un manque d'amour aussi. Mais c'est le signe évident qu'il s'estime au-dessus des autres. Quand quelqu'un parle de quelqu'un d'autre, souvent, on dit des choses contre cette personne, dans le train, on est pour tout, et puis on dit, on n'oublie presque souvent jamais de dire, tu as vu comment il a fait? Je t'assure, c'est horrible. Et il a l'habitude de faire ça, j'ai discuté avec quelqu'un d'autre, on le connaît pour faire comme ça. Moi, je n'aurais jamais fait ça. On n'oublie jamais en passant de se laisser un petit commentaire positif sur soi-même. Ils font ça. Mais moi, je n'aurais jamais fait ça. Je suis au-dessus de ça. Et souvent, quand on calomnie, quelqu'un. Ce n'est pas simplement pour dire du mal, mais c'est pour dire aussi que l'on est meilleur. Okay. Donc, ici, Jacques dit, celui qui calomnie, il parle mal contre la loi, mais il se fait juge aussi. Il se met au-dessus. Okay. Donc, l'homme ne peut pas être, et Jacques ajoute ceci, hein, il dit, si tu es, donc le même passage, hein, si tu es juge, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Celui qui calomnie, il juge la loi. Mais s'il juge la loi, il n'est plus observateur de la loi, il n'est plus pratiquant. Le mot c'est, il n'est plus en train d'observer dans le sens d'obéir, de mettre en pratique, c'est le mot qui est là quand il est observé. Il n'est plus observateur de la loi, mais il est juge, il est au-dessus et il juge la loi. Ici, il n'y a pas d'obéissance à la loi quand je calomnie, parce que quand je calomnie, je me place au-dessus de la loi. Donc voilà ce que Jacques dit ici, hein. Il dit que celui qui calomnie, eh bien, il agit d'une manière particulière par rapport à la loi de Dieu. Il en parle mal, et il se place en juge de la loi de Dieu. Il faut penser à ça comme ça, quand nous disons quelque chose contre quelqu'un, dans l'église, dans la famille, au travail, etc. Je suis en train de juger la loi qui me demande d'aimer. Je me place au-dessus d'elle. Et je dis que je peux aller à l'encontre de cette loi. Foncièrement, c'est ce que l'Écriture nous dit ici. Et puis aussi, Jacques dit ceci, hein, il décrit la loi donc dans son rapport, la calomnie dans son rapport avec la loi de Dieu, mais il décrit la calomnie aussi dans son rapport à Dieu lui-même. Regardez Jacques chapitre 4 encore, versets 11 et 12, je vous lis. « Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge, et un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ?» Encore une fois, on avait dit que juger le prochain, parler mal, pour Jacques, c'était la même chose ici. Hein. Vous voyez ça ? Si tu juges la loi, tu n'es pas observateur, tu en es juge. Or, un seul est juge et législateur. Qui c'est qui est juge et législateur ? C'est Dieu. Donc Jacques ne le dit pas, il ne prononce pas le nom de Dieu ici clairement, mais on sait bien qu'il parle de Dieu. Il y a un passage dans Ésaïe 33 qui dit ceci, je vous lis. Hein. Il dit « Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. » Donc c'est peut-être ce passage-là auquel Jacques pense. Hein. Un seul est juge, un seul est législateur. Donc, quand on parle mal, on se fait juge quand on prononce notre jugement sur les motivations des autres. Et on prononce notre condamnation aussi, hein, parfois, sur les motivations des autres. Et de ce fait, on tente de se hisser à la place de Dieu. C'est ce que Jacques dit ici. Il dit, si tu juges la loi... Si tu calomnies, je reprends dans le sens, si tu calomnies, tu parles mal, tu calomnies aussi la loi. Si tu calomnies la loi, tu te places en juge de la loi. Si tu te places en juge de la loi, tu as un problème parce qu'un seul est juge et législateur. Ça veut dire que tu es en concurrence là. Tu vas chercher à te hisser à la place qui revient à Dieu, aux prérogatives qui appartiennent seulement à Dieu. Donc c'est quand même fort, je trouve. Quand on parle mal de quelqu'un, on est en train de dire, c'est moi qui suis juge, à la place de Dieu. Alors, on ne pense pas comme ça, mais c'est comme ça que l'Écriture le pense. Celui qui parle mal des autres, il cherche à se hisser à la place de Dieu et à être juge comme s'il connaissait tout ce qui se passe. Donc, c'est vraiment important de considérer cela de cette manière-là. Donc, conclusion, je termine avec ça. Éphésiens 4, 31 dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Comment faire pour renoncer à la calomnie ? Il faut la faire disparaître. Parce que c'est un péché grave dans lequel on cherche à se hisser à la position de Dieu. Ça, d'ailleurs, c'est le péché. Le péché, c'est toujours chercher à prendre la place de Dieu. Comment la faire mourir, par l'esprit. La Bible dit, si vous vivez par la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, il faut demander à Dieu la direction de son esprit, se soumettre à la direction de l'esprit pour lutter contre cela. Par la prière, le psaume 141 dit ceci. L'Éternel met une garde à ma bouche, veille sur la parole de mes lèvres. C'est une prière. C'est une prière que nous devons faire. Peut-être nous ne la faisons pas suffisamment. Mais Seigneur, garde-moi. Mets une garde à ma bouche. Hein? D'accord? Une sentinelle qui m'empêche de dire des choses. Ça part vite à une parole. Hein? C'est très, très facile. Ça part très, très, très vite. On va se retenir avant de mettre un coup de poing à quelqu'un. Mais on ne se retiendra pas beaucoup avant de laisser partir une parole. Et on a besoin de prier que Dieu mette des gardes à notre bouche, qu'il préserve notre langue du mal. Jacques dit quelque chose comme « Celui qui tient sa langue en bride est un homme parfait. » Celui qui tient sa langue en bride est un homme parfait. Jacques chapitre 3. Je n'ai pas la référence exacte, mais il dit ça. Et puis, troisième chose, donc l'esprit, la prière, la repentance et la demande de pardon. D'accord. Si nous reconnaissons que nous avons mal parlé, ce n'est pas que nous avons calomnié. Ce n'est pas la peine de chercher à nous justifier. Oui, mais ce que j'ai dit est vrai. Ce n'est pas parce que c'est vrai qu'il faut le dire. Il faut se repentir et demander pardon. C'est la seule manière qu'on a de réparer les choses, que l'Écriture nous donne de réparer les choses. Il faut reconnaître notre péché, demander pardon au Seigneur, mais demander aussi pardon à quelqu'un si on a fait du tort à quelqu'un dans ce domaine. Reconnaître qu'on a cherché à prendre la place de Dieu. Demander à Dieu pardon pour cela. Et c'est important. Donc, repentance et pardon. Quatrièmement, se souvenir, ça c'est que nous serons jugés pour nos paroles. Se souvenir que nous serons jugés pour nos paroles. La Bible dit, hein, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Mais Jacques dit quelque chose dans le chapitre 2, il dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Il dit, quand vous parlez, parlez, mais faites-le en agissant d'une manière qui montre que vous savez que vous serez jugé. 2:12, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Voilà, et puis je veux dire deux petits commentaires quand même, juste pour dire que, conclusion, que la véracité d'un fait, ce que nous montre ce passage, concernant une personne, n'est jamais une condition suffisante pour la rapporter. C'est pas parce que j'ai une vérité sur quelqu'un que je dois la dire. C'est important. Ah, mais c'est une vérité, j'ai pas menti, j'ai dit la vérité. Hein. Oui, mais tu as calomnié quand même. Parce que tu l'as dit d'une manière telle que ça nuit à la personne. Donc, il faut être très vigilant quand on sait quelque chose. Hein. Pas là pour faire du tort aux autres. C'est pas parce que c'est la vérité qu'il faut la dire. Ça, c'est une chose qui est très importante. Parce que souvent, on se cache derrière la vérité du fait pour se justifier. C'est mauvais. Et puis, deuxième remarque, qu'on tire surtout de Jacques, c'est que le péché, ce n'est pas qu'un acte. Péché, ce n'est pas qu'un acte. Hein. Péché, c'est toujours une tentative de coup d'État qui vise à se hisser au niveau de Dieu et à le renverser. Si on voit le péché comme ça, je crois qu'on demande au Seigneur la grâce de ne pas pécher contre lui. Lorsque Adam et Ève ont péché, lorsque le diable les a poussés à pécher, qu'est-ce qu'il leur a dit? Quelle est la promesse qu'il leur a faite? Vous serez comme Dieu. Et c'est ça, en fait, fondamentalement dans le péché. On cherche toujours à être notre Dieu nous-mêmes, prendre nous-mêmes les décisions, se hisser, juger, condamner, qui sont des prérogatives qui appartiennent seulement à Dieu. Que le Seigneur nous aide à saisir cela pour nous aider, pour nous faire prendre conscience de l'importance de renoncer à la calomnie. Et la prochaine fois, nous verrons ce que sont les mauvaises paroles ou les paroles déshonnêtes. C'est un domaine un petit peu différent. Mais que le Seigneur nous aide dans dans ce domaine où nous péchons facilement. Facilement, parce que nous parlons beaucoup et avec 16 000 mots par jour, nous risquons bien quelque chose de travers. Donc que le Seigneur nous aide à mettre un frein à notre bouche pour la gloire de son nom. Celui qui veille sur sa bouche, veille sur son âme. Il dit ça, hein? Celui qui veille sur sa bouche, veille sur son âme. Et puis il y en a un autre que j'ai pas lu qui disait aussi une prière, hein, de l'Ecclésiaste, ne permet pas à ma bouche de faire pécher ma chair. Il le dit, ne permet pas à ta bouche de faire pécher ta chair, mais on peut le prendre comme une prière. Seigneur, ne permet pas à ma bouche de faire pécher ma chair. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole et que tu nous aides par ton esprit à la mettre en pratique. Nous voulons être conformes à ta parole. Nous désirons l'être. Nous reconnaissons notre faiblesse, notre péché, nos manquements et nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons parlé mal des autres, ou pensé mal des autres, ou dit du mal aux autres. Seigneur, que tu nous aides à être honnêtes avec nous-mêmes, à ne pas chercher à nous justifier, mais à nous repentir et à demander pardon, et à vivre vraiment en nouveauté de vie, à chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Que ton nom soit béni. Amen.